Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La persécution est une réalité douloureuse qui touche de nombreux chrétiens à travers le monde. Il est donc pertinent de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Pour cette raison, nous réfléchirons sur ce thème de la persécution tout au long de cette série d'émissions.
Nous sommes contents d'accueillir Didier sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons parlé de la persécution à laquelle Jésus était confronté. Jésus était victime de médisances et de préjugés de la part des pharisiens, et puis ces derniers ont fomenté un complot qui a abouti à sa crucifixion. Nous avons alors remarqué le courage de Jésus. Il a tenu bon dans sa détermination à accomplir la volonté de Dieu, et il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Au contraire, Jésus aimait ses ennemis. En toutes ces choses, Jésus est un exemple pour nous.
Merci Didier pour ce bref résumé de notre dernière intervention. Aujourd'hui, nous allons nous pencher davantage sur l'enseignement de Jésus sur la persécution.
C'est exact, Yann. Certaines personnes pensent qu'en s'attachant à Jésus par la foi, elles auront une vie facile. Et lorsque ces personnes rencontrent par la suite de l'opposition ou la persécution, elles deviennent perplexes et désorientées. Elles peuvent se poser beaucoup de questions et avoir des doutes. Leur foi peut faiblir, certains même abandonnent Jésus. Aussi, il est important d'affirmer que Jésus a enseigné que l'opposition et la persécution sont des réalités auxquelles le disciple devra faire face tôt ou tard. Par son enseignement, Jésus voulait préparer ses disciples à la persécution qu'ils allaient endurer. Jésus ne voulait pas que ses disciples soient surpris par l'opposition et la violence qu'ils allaient subir. Au contraire, il voulait que ses disciples soient prêts à affronter et à assumer ces dures réalités.
Merci. Pouvez-vous citer des versets bibliques qui vont dans ce sens?
Oui. Lisons dans Matthieu chapitre 10, les versets 17 et 18, puis 21 à 24.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître.
Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Cela signifie que le disciple risque fort de subir les mêmes épreuves que Jésus. Si Jésus a rencontré l'opposition lors de son ministère, nous devons nous attendre à en rencontrer aussi. Si Jésus a été persécuté, nous ne serons pas forcément épargnés des épreuves. En résumé, si par notre foi et notre témoignage, nous affichons notre loyauté envers Jésus, les gens risquent de nous maltraiter tout comme ils ont maltraité Jésus. Lisons un deuxième texte, en Matthieu chapitre 24 au verset 9. Il s'agit d'un discours dans lequel Jésus décrit les conditions de vie dans la période de la tribulation, période qui s'étend de sa résurrection jusqu'à son retour.
Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi.
Cela ne veut pas dire que la persécution sera vécue partout et à tout moment, mais qu'en règle générale, des épisodes de persécution, plus ou moins intenses, éclateront ici et là, assez fréquemment. Il ne faudra pas être surpris si cela devait nous arriver. Il faut s'y préparer, il faut être prêt.
Merci. Si nous subissons la persécution, quel comportement Jésus nous demande-t-il d'adopter?
Citons une fois de plus l'évangile de Matthieu. Cette fois-ci au chapitre 5, les versets 43 et 44.
Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Ces paroles sont assez bien connues, mais elles représentent un véritable défi à relever, surtout pour celles et ceux qui subissent la persécution.
Comme nous l'avons déjà dit, le serviteur n'est pas supérieur à son maître. En fait, Jésus nous demande de suivre son propre exemple. Jésus a aimé ses ennemis et, alors même qu'il agonisait sur la croix, il a prié pour ses persécuteurs. Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il n'a pas lui-même fait.
Il serait bien de parler plus en détail de ces deux exhortations. Aimer ses ennemis et prier pour ses persécuteurs.
Dans l'exhortation à aimer ses ennemis, j'y vois deux éléments. D'abord, aimer ses ennemis, c'est s'abstenir de rendre le mal pour le mal. Autrement dit, Jésus nous appelle à ne pas tomber dans le cercle vicieux de la violence et de la vengeance. Lorsque cela est possible, le chrétien persécuté peut chercher la protection et la justice auprès des autorités compétentes, mais il ne doit pas exercer sa propre justice en ayant recours à la vengeance.
Mais parfois, ce sont les autorités mêmes qui persécutent le chrétien.
Là, évidemment, la situation est différente. Toutefois, même dans son désespoir et son impuissance, le chrétien ne doit pas avoir recours aux armes pour exercer sa propre justice. Ensuite, aimer ses ennemis signifie que le chrétien persécuté peut continuer, s'il en a l'occasion, de faire du bien à ceux qui le persécutent. Au lieu de rendre le mal pour le mal, le chrétien est appelé à triompher du mal par le bien. Il est appelé à accomplir des gestes et des actes d'amour, même envers ceux qui le maltraitent. Il est appelé à pardonner et à viser la réconciliation.
Et ensuite, Jésus exhorte ses disciples à prier pour leurs ennemis.
Oui, en fait, prier pour ses ennemis est un moyen, parmi d'autres, de les aimer. La tentation existe de prier afin que nos ennemis subissent un jugement de la part de Dieu. Mais l'exemple de Jésus nous oriente vers d'autres prières, des prières qui reflètent sa compassion et sa miséricorde.
Oui, je me souviens que sur la croix, Jésus a demandé à son Père de pardonner ceux qu'il avait si cruellement condamnés à la peine de mort.
C'est vrai, Yann. Et la meilleure prière que nous pouvons offrir à nos persécuteurs est qu'ils comprennent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'ils y répondent par la foi et la repentance. C'est seulement par la grâce transformatrice de Jésus-Christ que nos persécuteurs peuvent être libérés de leur aveuglement haineux pour trouver le pardon auprès de Dieu et pour se réconcilier avec lui. C'est surtout dans ce sens que nous pouvons prier pour ceux qui persécutent l'Église.
Et si un persécuteur change sincèrement de voie pour s'attacher à Jésus, il ne s'opposera plus aux croyants et ne les maltraitera plus.
C'est exact, Yann. Et dans ce cas, les croyants qui ont subi la persécution doivent aussi pardonner et se réconcilier avec leurs anciens persécuteurs.
Merci Didier. Nous devons nous arrêter là.
La prochaine fois, nous reviendrons sur l'enseignement de Jésus et nous réfléchirons sur quelques promesses qu'il a prononcées à l'égard de l'Église persécutée. En attendant de vous revoir tous, je vous dis au revoir.
Merci Didier, et au revoir.
Lors de nos courtes méditations bibliques, nous continuons sur le thème de la persécution. L'apôtre Pierre a adressé sa première lettre aux églises situées en Asie mineure. Celle-ci commence à subir la persécution, et Pierre leur écrit pour les aider à tenir bon. Sandra va nous lire tout de suite en 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13. Et ensuite, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire.
Bonjour, chers amis. L'apôtre Pierre écrit à des églises en Asie mineure. Les croyants commencent à souffrir pour leur foi et apparemment, ils ne s'attendaient pas à devoir endurer de telles épreuves. Certains ne pouvaient-ils plus exercer leur métier parce qu'ils ne participaient plus aux cultes idolâtres? Les autorités se méfiaient-elles des chrétiens, les privant des droits et privilèges réservés aux bons citoyens? Y a-t-il eu des actes de violence visant les croyants? Des responsables d'église ont-ils été emprisonnés? L'apôtre Pierre a bien écouté l'enseignement de Jésus. Il n'est pas surpris par ces événements. Et il insiste, afin que ses croyants ne soient pas surpris eux non plus. Il insiste pour dire qu'à l'heure actuelle, la persécution est symptomatique d'un monde qui refuse de se soumettre à Christ et qui, de ce fait, s'acharne contre son peuple. Pierre écrit donc sa lettre pour préparer les croyants à l'épreuve de la persécution. Il veut les aider à tenir ferme dans leur foi et à rendre un bon témoignage. Il veut fortifier leur espérance, car c'est l'espérance en un avenir meilleur qui va les aider à endurer les épreuves douloureuses du quotidien. Oui, Pierre rappelle aux croyants que Jésus reviendra un jour dans toute sa gloire. À ce moment-là, il écrasera ses ennemis et délivrera l'Église persécutée. En nous accrochant à cette espérance, nous trouvons la force de persévérer avec joie. Pierre rappelle aussi que Jésus a beaucoup souffert et que si nous souffrons aussi pour notre foi, c'est le signe que nous appartenons réellement à Jésus. La persécution est une épreuve douloureuse. Toutefois, le fait de savoir que Jésus est solidaire avec nous dans la souffrance peut nous apporter une certaine joie, un réconfort. Oui, cela peut paraître étrange qu'au sein de la persécution, Pierre nous appelle à nous réjouir. Nous nous réjouissons non parce que nous souffrons, mais parce que dans nos souffrances, nous sommes unis à Christ. Nous demeurons bénis en lui, et même si nous perdons beaucoup, nos persécuteurs ne pourront jamais nous priver de notre bien le plus précieux, à savoir Jésus-Christ.
Merci Antoine pour ces paroles encourageantes qui fortifient notre foi.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos discussions autour du thème de la persécution. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.